السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، nous sommes toujours à la bataille de Uhud, dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Donc on a passé l'étape des duels, d'abord l'étape des positionnements des deux armées, ensuite l'étape des duels, dans laquelle on a vu que sur la dizaine, voire même la onzaine de duels qu'il y a eu entre les porteurs de l'étendard des idolâtres et les compagnons de Médine, ce sont les compagnons de Médine qui ont eu le dessus dans tous les duels qu'il y a eu. Ensuite, on a parlé et on s'est attardé sur la mort du premier compagnon pendant la bataille. Le premier compagnon à mourir pendant la bataille de Uhud, c'était Abdullah ibn Amr ibn Haram, qui est compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui est père d'un fidèle compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jabir ibn Abdillah. Et ensuite, et c'est là où on s'est arrêté, on a parlé de Hanzala ibn Abi Amir radiyallahu anhu. On a expliqué que Hanzala ibn Abi Amir radiyallahu anhu, cette nuit-là, lorsqu'il quitte sa maison pour rejoindre l'armée, c'est son jour de mariage, c'est sa nuit de noces. Il abandonne sa nuit de noces, son mariage. Il rejoint l'armée sans même avoir eu le temps de faire ses grandes ablutions, comme on l'a expliqué. Et dès le début de la bataille, il va se passer deux choses qui vont le concerner. La première, c'est que son père, qui était ouvertement hostile aux musulmans et qui s'était réfugié à la Mecque, son père, c'était Abu Amir, que les idolâtres appelaient Ar-Rahib et que les musulmans appelaient Al-Fasiq, le corrompu. Son père, il a été amené par Abu Sufyan parce qu'il a ouvertement montré son hostilité aux musulmans, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et surtout il lui avait fait une promesse et il s'était engagé à ce que lorsque le jour de la guerre viendra, il lui suffira de parler aux gens de Médine et en particulier à sa tribu pour qu'ils le rejoignent. Et donc on a expliqué qu'Abu Sufyan va lui demander de parler, et quand il va parler, il va être rejeté par les Médinois. Ils ne le reconnaîtront pas. Enfin, ce n'est pas qu'ils ne le reconnaîtront pas. Ils le connaissent, ils le reconnaissent, ils savent bien qui c'est. Mais ils ne reconnaissent pas son statut, entre guillemets, son ancien statut, puisqu'avant l'arrivée de l'islam, il était reconnu comme un chef et un notable dans la tribu des Haous. Ensuite, la deuxième chose par laquelle Hanzala ibn Amir va s'illustrer dans cette bataille, c'est que donc il a vécu ce moment avec son père. C'est compliqué pour lui. Et malgré tout, il prend une décision qui aurait pu être décisive pour la suite de la bataille. C'est que dès que les deux armées s'attaquent dans une bataille généralisée, une attaque généralisée, donc juste après la série des duels, les deux armées s'attaquent, ils s'affrontent. C'est des tête-à-tête, tout le monde est mélangé. اتفقنا؟ طيب الوسم والله إذا كان أوبجيكتيف حمد الله بن أبي عامر رضي الله عنه c'est de, d'une certaine manière l'étendard comme on a dit il est tombé les 11 personnes idolâtres qui ont essayé de tenir l'étendard en haut ils ont été tués dans les duels et donc plus personne n'ose relever l'étendard il n'y a que l'étendard des musulmans qui est haut alors que les musulmans sont trois fois moins nombreux que les idolâtres la chose que Hamdallah ibn Abi Amir veut faire l'étendard n'est plus là celui des idolâtres il est par terre Il se dit que s'il arrive à couper la tête de l'armée, c'est-à-dire à affronter le chef de l'armée idolâtre et d'avoir le dessus sur lui, ça démoralisera tellement les idolâtres que la bataille elle cessera à ce moment-là. Ils auront perdu la bataille. L'étendard est par terre, leur chef est mort. Pourquoi continuer la guerre ? Donc, après la chute de l'étendard, Son objectif à lui, son projet à lui, c'est la chute de Abu Sufyan. Radiyallahu anhu. Et donc il traverse les rangs jusqu'à Abu Sufyan. Et Abu Sufyan était sur une monture. Il descend de sa monture, il accepte le duel, il descend de sa monture. Abu Sufyan, ce n'était pas quelqu'un à refuser les duels. Il avait une certaine fierté. Une certaine idée de lui, surtout lorsqu'il n'était pas encore musulman. Après, lorsqu'il va se convertir à l'islam, l'islam va l'éduquer d'une certaine manière. À ce moment-là, il a encore toute sa prétention, tout son orgueil, et les idolâtres, les arabes idolâtres de l'époque, c'est ainsi qu'ils marchent. Ils revendiquent leur fierté, ils revendiquent leur prétention. Non. Il faut savoir, il faut comprendre la mentalité de la jahiliya. Il y en a quelquefois, on entend des choses et on ne comprend pas. Même chez les compagnons. Au moment où ils viennent de se convertir à l'islam, ils sont encore dans un certain registre et nous, on est nés dans l'islam et on a appris que voilà comment il faut parler, voilà comment il faut se comporter avec l'autre, etc. Et quelquefois, chez des compagnons qu'on vénère, qui sont beaucoup mieux que nous, quelquefois, on peut voir des choses qui vont peut-être nous interpeller. Par exemple, on a parlé dans les duels, du duel entre Hamza ibn Abd al-Muttalib et Siba ibn Abd al-Uzza. Et quand Hamza ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu, il a vu Siba ibn Abd al-Uzza qui est venu se pavaner, qui est venu provoquer les musulmans en duel, comment il l'a accueilli Hamza ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu ? Il l'a accueilli en l'insultant. Il lui a dit Yabna muqatti'ati al-budur. Sa mère, elle était connue, la mère de Siba ibn Abd al-Uzza, elle était connue pour être l'exciseuse. Celle qui faisait l'excision pour les fillettes à la Mecque. L'excision, c'est la circoncision pour les filles. Et donc, il va lui dire de manière vulgaire, pour lui rappeler entre guillemets son statut, « Yabna muqatti'atil budur »« Ô fils de la coupeuse de trois petits pois, vous m'avez compris. » Et ça, par exemple, comment on peut répondre à ça pour quelqu'un qui est perturbé ? Parce que c'est une tradition, une narration qui est dans l'authentique de Bukhari. Elle est authentique. Ben mais nous, on nous a toujours dit qu'il ne faut pas insulter, même son ennemi, il ne faut pas l'insulter, il faut toujours bien parler, etc. Là, c'est de la vulgarité, c'est de l'obscénité. Ah. Premièrement, c'est une situation de guerre. On n'est pas dans la vie de tous les jours. Et la situation de guerre, on est obligé d'en faire plus, d'en faire trop, pour impressionner l'ennemi. Parce que comme le professeur Hassim a dit, « Al-harbu khuda'a », la guerre n'est en premier que tromperie. Tu gagnes 90% de la guerre en trompant l'ennemi, en lui faisant croire que tu es plus puissant que lui, que tu es plus méchant que lui, que tu n'as pas peur de mourir, que. Et tout ça, tu n'as pas encore livré bataille, tu n'as pas encore levé l'épée. C'est juste comment tu te prépares à la guerre et comment tu prépares l'idée que l'ennemi se fera de toi. Donc il est dans ce registre-là, Hamza ibn Abd al-Muttalib. C'est le contexte de la guerre. Et aussi, quand on est à Uhud, on est à peine quelques années après la conversion de Hamza ibn Abd al-Muttalib. Et je vous rappelle que Hamza ibn Abd al-Muttalib, lorsqu'il s'est converti, il s'est converti d'abord parce qu'il avait le souci de vouloir protéger son neveu. Il rentrait de la chasse et son neveu, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque, une fois de plus, il s'était fait attaquer par Abu Jahl. Il l'avait frappé, il l'avait d'abord insulté et ensuite il l'a frappé. Et quand Hamza, radiallahu anhu, il rentre et qu'on lui dit ça, il a été pris. Son neveu, l'esprit tribal, l'esprit familial était très important dans la jahiliya. On a touché à mon neveu, alors qu'il n'était pas encore musulman. Il refusait même l'islam, mais il refusait encore plus qu'on fasse du mal à son neveu. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait ? On connaît tous l'histoire, il est parti trouver Abu Jahl. Et avec son arc, il l'a frappé. Et il l'a même balafré au visage avec son arc. Et il lui a dit, Atashtumu bna akhi wa ana ala dini. Est-ce que tu oses insulter mon neveu alors que moi aussi je suis dans sa religion ? C'est comme ça qu'il s'est converti. Avant ça, il n'a jamais dit qu'il était musulman. C'est-à-dire que c'est par provocation. Ah, vous voulez, parce que vous les avez pris pour des faibles et comme ça, donc vous, vous faites de ce que vous voulez. C'est pour leur religion. Allez, ben moi aussi, je vais être de leur religion. Allez, c'est quoi le problème ? Et en plus, je te frappe. Qu'est-ce qu'il y a ? Et il va lui dire, après l'avoir frappé, « Ruddaha alayya in istata't. Rends-le-moi, rends-moi ce coup si tu oses. Yalla. » Et là, la tribu des Bani Makhzoum, c'est la jahiliya. Ils vont dire quoi ? Ils vont dire « Hayya Abi Jahl. » Venons à Abu Jahl, venons l'aider, venons le soutenir. Et là, les gens de la tribu des Bani Makhzoum, ils arrivent. Et là, les Bani Hashim, la tribu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et parmi eux, il y en a plein qui ne sont pas musulmans, et qui se disputaient même avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ? Parce qu'ils refusaient l'islam et ils refusaient qu'ils fassent la da'wah. Mais là, ce n'est plus une affaire de religion. Là, ils ont entendu la tribu d'en face. Au début, ils doutaient encore entre Hamza et Abu Jahl. Bon, non. Mais quand ils ont entendu les gens de la tribu des Bani Hashim venir au secours d'Abu Jahl, sous prétexte qu'il est de leur tribu, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Hayya Bani Hashim. Ou Hayya Hamza. Venons aider Hamza. Aïwa. Et là, Abu Jahl, il voit qu'à cause de lui, il va y avoir une guerre tribale et pas entre les musulmans et les non-musulmans. Lui, Abu Jahl, ça ne le dérange pas qu'il y ait une guerre entre les musulmans et les non-musulmans. Mais là, entre deux groupes, et parmi eux, il y a des musulmans, des non-musulmans. Ça va être une guerre. Il ne veut surtout pas de ça. Parce que là, ça veut dire que son projet, il est perdu. Et donc, tout de suite, il va dire, laissez-le. Il va dire à sa tribu, rentrez. Il a raison. J'ai dépassé la limite avec son neveu. Et aussi, il fait marche arrière à Abu Jahl, parce qu'il entend qu'à cause de ce qu'il a fait, Hamza, radiallahu anhu, lui dit quoi ? Il lui dit, bah, moi aussi, je suis de sa religion. Donc il se dit, en revenant en arrière, peut-être que lui aussi va revenir en arrière. Mais Hamza ne reviendra jamais en arrière. Il restera dans la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il s'est converti d'une certaine manière, il a montré sa conversion par tribalisme, et finalement il deviendra un des meilleurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ça, il faut comprendre cette mentalité pour comprendre quelquefois certaines choses qui peuvent nous interpeller, même chez les compagnons, radiallahu anhum. Tout comme chez un musulman de naissance, quelque chose peut nous interpeller. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas eu la même éducation que nous. Il ne vient pas de la même culture que nous, du même pays que nous. Il faut dissocier entre religion et tradition. Non. Et donc cette mentalité de la jahiliya, elle est importante, surtout dans cette histoire de prétention, d'orgueil, de fierté. Hein ? Vous avez par exemple un des plus grands poètes connus dans la jahiliya, Antarat ibn Shaddad. Son histoire. Pour ouvrir cette parenthèse, sinon on n'a pas fini. Et pour résumer, Antarat ibn Shaddad, c'est le fils d'une esclave, mais en même temps d'un grand notable, d'un chef de tribu arabe. C'est-à-dire le chef de tribu arabe, il avait une esclave, et cette union entre le chef et l'esclave a donné naissance à Antarat ibn Shaddad. Et donc il était marginalisé, Antarat ibn Shaddad. Il a voulu se marier avec sa cousine. Mais les parents de cette cousine, ils le considéraient comme à moitié pas... Ils le considéraient comme quelqu'un de pas important, ou quelqu'un qu'ils devaient mépriser. Pourquoi ? Parce qu'il était, dans leur tête à eux, à moitié esclave, puisque sa mère, elle était d'origine esclave. Et donc, ils vont jamais lui donner la fille avec laquelle il veut se marier. À un tel point qu'il va beaucoup en souffrir. Et quand sa tribu, elle fera la guerre à d'autres tribus, Antarabt ibn Shaddad, il était terrifié à la guerre. Et donc sa tribu venait lui demander de l'aider, de l'aider pour la guerre. Parce qu'il savait qu'avec lui, ça pouvait faire la différence. Et il lui disait, pour le tenter de venir à la guerre, parce qu'évidemment, il ne voulait pas les aider, on ne l'aide pas à se marier, pourquoi il va les aider à la guerre? Il lui disait, si tu acceptes, on va te donner celle que tu veux. Mais d'abord la guerre. Et comme ça, plusieurs guerres, il va se faire avoir. Non. Et dans un de ses poèmes, d'ailleurs, il dit وَلَوْلَا الْهَوَى مَا ذَلَّ مِثْلِي لِمِثْلِهِمْ. Et s'il n'y avait pas la passion de l'amour, quelqu'un comme moi ne se serait jamais rabaissé à des gens comme eux. Non, chauffe la prétention, l'orgueil. L'idée qu'il se fait de lui. Quelqu'un comme moi, jamais il se serait rabaissé à des gens comme eux. Dans un autre poème, il dit La tasqini ma al-hayati bi dhillatin bal fasqini bil 'izz ka'sa al-hanzali ma al-hayati bi dhillatin ka jahannami wa jahannam bil 'izz atyab manzili. Voilà, c'est le summum, comme dirait l'autre. La tasqini ma al-hayati bi dhillatin. Ne me fais pas boire l'eau de la vie, bivillatin, en me méprisant, en me m'humiliant. Ne m'offre pas la vie en échange que tu m'humilies. Ça, je n'en veux pas. Je préfère mourir plutôt que d'être humilié par des gens comme vous. C'est ça qu'il est en train de dire. Balfasqini. Balfasqini bil'izzi ka'sa al-handali. Mais plutôt, je préfère que tu me donnes l'honneur. Honore-moi. Rends-moi mes honneurs. Ka'as al-hanbali. Même si pour cela, tu dois me faire boire l'amertume, quelque chose qui est imbuvable. Le goût n'est pas là. Ma'lish, je préfère boire ça et être honoré, garder mon honneur, ma fierté, plutôt que tu vas m'humilier, soi-disant, pour me donner la vie. C'est-à-dire pour lui, il est en train d'expliquer qu'entre la vie et l'honneur et la fierté, c'est quoi le plus important? La fierté. Sauf que quand il y a mort d'homme, bon, la fierté, normalement, il faut la mettre un petit peu de côté. Non. Ensuite, il dit « Ma'ul hayati »« Ma'ul hayati bil'izzi »« Afwan »« Ma'ul hayati bi billatin ka jahannamin » Parce qu'il dit « Parce que la vie » accompagné de l'humiliation, accompagné du fait qu'on te rabaisse, que Jahannam. C'est comme Jahannam. Jahannam, pour les idolâtres, de la Jahiliya, quand l'islam n'était pas encore arrivé, ce n'était pas forcément l'enfer. Eux, ils comprenaient Jahannam, ils utilisaient le mot Jahannam pour un endroit loin, qu'on ne connaît pas et que personne ne veut voir et dans lequel personne ne veut aller et dans lequel personne ne veut vivre. Et ensuite, lorsque l'islam est arrivé, il a réutilisé ce mot pour parler de Jahannam al-Akhira. Naam. على كل حال دونك il dit لا تسقني نعم ماء الحياه بذله كجهنم l'eau la vie avec l'humiliation c'est comme l'enfer c'est comme جهنم وجهنم بالعز اطيب منزلي et l'enfer avec l'honneur c'est la meilleure des demeures. Bien sûr, ce n'est pas vrai. Hein. Mais c'est ce que lui pensait, c'est ce que lui voulait revendiquer. Pourquoi? Parce que l'aïz, la fierté. Et donc, si on ne comprend pas cette mentalité, il y a plein de choses dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans la vie des compagnons qu'on ne comprendra pas. Dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on est obligé de les lire avec ce contexte. Les paroles des compagnons, leurs attitudes parfois, on est obligé de les comprendre à l'aune de ces textes. Non. Je suis parti loin, je vais essayer de revenir. Non. Donc Hamza ibn Abd al-Muttalib, on avait dit, ça peut expliquer pourquoi il a eu cette réaction dans le duel avec Siba ibn Abd al-Uzza. Je reviens donc à Hamza ibn Abi Amir. qui a le dessus sur Abu Sufyan. Et finalement, comme il a le dessus sur Abu Sufyan, il y a un homme parmi les idolâtres que les idolâtres ont l'habitude de surnommer Ibn Sha'oub, le fils de Sha'oub. Sha'oub, c'est sa mère. Et qui est aussi connu sous le nom de Shaddad ibn al-Aswad. Shaddad, fils de l'Aswad. L'Aswad, c'est son père. Et qui est aussi surnommé Abu Bakr. Évidemment, rien à voir avec le compagnon Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu. Même s'il a quand même un lien avec Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu, le lien qu'il a, très éloigné, c'est qu'ils ont eu, à différentes époques de leur vie, la même épouse. Abu Bakr Siddiq s'est marié avec une femme dont il a divorcé au moment où il a fait la hijra vers Médine. Et après qu'il ait divorcé de cette femme, cet homme dont on parle, Shaddad ibn al-Aswad ibn Sha'oub, qui est aussi surnommé Abu Bakr, il va se marier avec la femme divorcée d'Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu. C'est d'ailleurs probablement pour ça qu'il a été surnommé Abu Bakr. Non. Ala kulli hal. Et on avait cité Shaddad ibn al-Aswad, donc il va venir à la rescousse d'Abu Sufyan. Et il va sauver Abu Sufyan parce qu'il va, alors que c'était un duel, un tête-à-tête. Il n'y a personne qui doit venir s'interposer. Et il va tuer le compagnon Hamdalah ibn Abi Amir, radiyallahu anhu. Shaddad ibn al-Aswad, qui est venu s'interposer, il est poète. Non, d'ailleurs, un de ses poèmes, il est connu quand il rentre de Badr. Il rentre et il a la honte, l'humiliation de l'échec, de la défaite militaire. Et son épouse, celle qui était avant l'épouse d'Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu, elle l'accueille malgré tout. Pourquoi ? Parce que même s'il a perdu la guerre, au moins il est vivant, puisqu'il y en a plein qui sont morts, il y en a plein qui sont prisonniers. Donc elle se dit ouf, et elle est contente, et elle le salue. Et lui, il va faire des rimes dans cette occasion, dans lesquelles il va dire « وَمَاذَا بِالْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرٍ مِنَ الشِّيْزَ تُزَيَّنُ بِالسَّنَامِ وَمَاذَا بِالْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرٍ مِنَ الْقَيْنَاتِ وَالشَّرْبِ الْكِرَامِ تُحَيِّينَ السَّلَامَةَ أُمُّ بَكْرٍ وَهَلِّي مِنْ بَعْدِ قَوْمِ مِنْ سَلَامِ يُحَدِّثُنَا الرَّسُولُ أَنْ سَنَحْيَا وَكَيْفَ حَيَاتُ أَصْدَاءٍ وَهَامِ » Ces rimes, qu'est-ce qu'elle veut dire ?« وَمَاذَا بِالْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرٍ » Et qui a-t-il dans la fosse de Badr, là où ils ont été enterrés les idolâtres par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont été tués dans la bataille de Badr. Les musulmans les ont enterrés, comme on a dit la semaine dernière. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette fosse ? Pour dire, rappelez-vous ceux qui sont morts. C'est des gens importants. Minashiza tuzayyanu minas-sanami. Dans cette fosse, il ne donne pas les noms des personnes qui sont morts et qui y sont enterrées. Il dit, il y a dans cette fosse les récipients, les grandes gamelles que ces gens-là nous servaient à manger. Et la viande qu'ils mettaient, la viande de chameau qu'ils mettaient dans ces gamelles. C'est-à-dire, il les décrit avec la qualité qu'ils avaient, la générosité. C'est-à-dire, il dit on a perdu ces hommes, mais en vérité, on a aussi perdu les qualités qu'ils avaient, parmi lesquelles la générosité. Et aussi, il dit وَمَاذَا بِالْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرٍ مِنَ الْقَيْنَاتِ وَالشَّرْبِ الْكِرَامِ. Et qu'est-ce qu'il y a dans la fosse de Badr, comme danseuse et comme buveur d'alcool, de vin. Ce n'est pas des danseuses qui sont enterrées là, mais c'est des gens qui avaient l'habitude de louer, de payer des danseuses pour organiser des grandes fêtes, etc. Même à Badr, ils ont ramené les danseuses. Et donc, c'est en ce sens-là, on a perdu ces gens-là et on a perdu toutes les grandes fêtes. C'est sûr qu'on ne va plus connaître les fêtes qu'ils avaient l'habitude de nous organiser. C'est ça qu'il veut dire. Avec l'alcool qui coulait à le flot, parce qu'ils donnaient, ils versaient sans compter. Les danseuses, zid, pas de problème. Et il dit après tout ça, en s'adressant à sa femme, « Tuhayyina salamata Ummu Bakrin wa halli min ba'di qawmi min salami » Ummu Bakr, donc son épouse, elle me salue avec le salam, avec la paix. Est-ce qu'il peut encore y avoir le salut, la paix, la sérénité, après qu'on ait perdu tous ces gens-là, tout ce peuple-là ?« Yuhadithuna al-rasulu an sanahya » Et le prophète, en parlant du prophète Mohammed, il le renie, et il le montre qu'il le renie dans ce qu'il dit. Il dit qu'on va vivre après la mort. Et à quoi vaut une vie qui est une vie de chouette et d'oiseau de mauvaise augure ? Parce que les idolâtres pensaient qu'il n'y avait pas de vie après la mort Et que si quelqu'un vivait après la mort, c'était pour se transformer en oiseau de mauvais augure, parce qu'ils étaient très superstitieux. Il y avait des sortes d'oiseaux, surtout les hiboux et tout ça, ceux qui vivent la nuit, les oiseaux qui se réveillent la nuit. Ils disaient, ces oiseaux-là, s'ils tournent autour d'une maison, ça veut dire qu'un malheur, il va arriver. Ah, quel rapport entre l'oiseau qui vient tourner autour de la maison et le malheur ? Al-Muhim. C'est ça la superstition. Il n'y a pas de rapport, mais tu veux absolument mettre un rapport. Non. Et donc, il disait, on se transforme en oiseau. À quoi ça sert de vivre si c'est pour se transformer en oiseau ? Le professeur Hassem, il ne t'a pas dit que si tu vis après la mort, tu vas te transformer en oiseau. Tu vas te transformer comme t'étais. Tu vas redevenir comme t'étais. Sauf que tu auras soit le paradis, soit l'enfer. Lui a mélangé la croyance en la vie après la mort, à laquelle le professeur Hassem appelle, et une fausse croyance à laquelle les idolâtres croient, c'est que s'il y a vie après la mort, c'est une vie où on se transforme, on se métamorphose, hein, en oiseau de mauvais augure. Non. Et donc, Shaddad ibn al-Aswad, ça montre qu'il est poète, comme on a dit les poètes. D'ailleurs, au moment où il va venir sauver Abu Sufyan, il vient et tout de suite, il improvise une rime qu'on nous a transmise. Cette rime, c'est quoi ? Il vient, il dit « La ahmeyanna sahibi wa nafsi bi ta'natin mithla shu'a' al-shamsi » La ahmiyanna sahibi wa nafsi. Sans aucun doute, je protégerai mon ami et mon âme. Ah, je viens à la rescousse de mon ami et de moi-même. Bita'natin, d'un coup d'épée, d'un coup de lame. Bita'natin, mithla shu'a' al-shamsi, qui sera aussi forte, aussi puissante que le rayon du soleil. Ils avaient le verbe, l'éloquence, dans la comparaison aussi. Et si, en plus de ça, on rajoute ce qu'on appelle l'ouazn, le fait que quand tu fais une rime, ça doit respecter certaines règles, etc. Mais ça, c'est ce qu'on ne voit pas forcément. On vous parle du sens, le sens, ils nous parlent, ils sont éloquents. Ils savent faire des comparaisons. Savent faire des métaphores. Et en plus de ça, tu dois respecter des règles très strictes. Tu ne peux pas juste sortir une comparaison et dire « Ah, je suis un poète » et faire juste des rimes à la fin. En français, c'est comme ça. En français, la poésie, c'est simple. La poésie française, il faut qu'il y ait un nombre de syllabes bien définies, les mêmes dans chaque rime, et qu'à la fin, ça rime. C'est bon, tu as fait ton poème. C'est déjà pas facile, mais ça va. Par contre, en arabe, il faut que ça, toutes ces conditions-là, comme la poésie française, soient réunies, et en plus, il y a entre les voyelles longues et les voyelles courtes, des choses à respecter. Pour chaque vers, il faut que ce soit le même nombre, la même chose. C'est compliqué à expliquer en détail comme ça, on n'est pas dans un cours de poésie, mais c'est pour que vous sachiez que c'est pas rien. Et donc, Shaddad ibn al-Aswad, c'était un poète. Et d'ailleurs, puisqu'on est dans les poèmes, cette situation, elle va être décrite par Abu Sufyan. Et on a dit Abu Sufyan, la fierté. Il a du mal à admettre qu'il a été sauvé par un autre. Sa fierté, elle a du mal à admettre qu'il y a quelqu'un qui a failli perdre le duel. Heureusement que Shaddad ibn al-Aswad, ou ceux que eux appelaient Ibn Sha'oub, est venu le sauver. Du coup, et comme en plus lui a fait un poème, une rime, dans laquelle il dit la Ahmiyanna, c'est moi. C'est moi qui l'ai aidé, c'est moi qui l'ai sauvé. La ahmiyanna sahibi wa nafsi bi ta'natin mithla shu'a' ash-shamsi. Je suis venu à la rescousse, j'ai sauvé mon ami et ma propre vie. Bi ta'na, d'un coup de lame, c'est tout. Alors que lui, il a galéré. C'est ça qu'il veut dire. Moi, juste un coup d'épée, c'est bon, je l'ai eu, Hamdallah. Ben, c'est normal. Hamdallah, radiallahu anhu, il t'est occupé avec Abu Sufyan et toi, tu arrives par derrière, tu lui mets un coup d'épée, c'est facile. Bi ta'natin mithla shu'a' ash-shamsi. Qui était aussi puissante qu'un rayon du soleil. Ça, c'est toi qui le dis. Et donc, Abu Sufyan, il ne peut pas laisser passer. Normalement, il devrait lui dire merci. Il n'arrive pas à lui dire merci. Comme on dit chez nous, Farnand. Kench, merci. Il va réussir à trouver le. Non. Et donc, il va dire, Abu Sufyan, dans un de ses poèmes, Là où j'ai tu najatni, kumaytun timiratun, wa lam ahmil inna'ma al ibn Sha'oubi. وسل الذي قد كان في النفس أنني. Donc il dit, لو شئت نجتني كميت طمرة. Si j'avais voulu, ça aurait été quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre qui m'aurait sauvé. C'est quoi le kumayt at-timirra? Kumayt at-timirra, c'est quoi? C'est le cheval. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut probablement dire qu'il a accepté de descendre de sa monture. Hein? Et qu'il a accepté le tête-à-tête, il y en est par terre. Et donc, il est en train de dire, en vérité, il se dénigre sans le vouloir. Puisque, ben, heureusement, c'est que si tu fais un tête-à-tête, il faut que vous soyez à égalité. Donc, pourquoi tu resterais sur ta monture? Mais en vérité, lui, qu'est-ce qu'il veut dénigrer à travers ça? Il veut dénigrer Ibn Sharb. Qu'est-ce que tu as fait? C'est, mon cheval aurait pu le faire. Je n'avais pas besoin de toi. Tu n'es pas mieux qu'un cheval. Ajib, la personne, il vient l'aider, il vient le sauver, lui sauver la vie. « وَلَمْ أَحْمِلِ النَّعْمَاءَ لِبْنِ شَعُوِي » Et je n'aurais pas eu, si j'avais utilisé mon cheval, je n'aurais pas eu à devoir être reconnaissant au fils de Sha'oub. En parlant de Shaddad ibn al-Aswad, il le surnommait Ibn Sha'oub parce que sa mère, elle s'appelait Sha'oub. Et généralement, les Arabes de l'époque, quand ils disaient fils d'un tel, fils du père, c'est qu'ils le respectaient. Quand ils disaient fils d'une telle, c'était pour mépriser. Donc le fils de Sha'oub, le fils de sa mère, yani. Naam. Les autres rimes, parce que c'est un long poème, les autres rimes, elles sont parties, mais la plus importante, c'était celle-là. Si ce n'est qu'à un moment, il va parler malgré tout de Hamza, parce que nous, justement, on va parler de Hamza. Et justement, il en parle dans ce poème. Et qu'est-ce qu'il dit dans ses rimes à propos de Hamza? Il dit... Naam. أنني قتلت من النجار كل نجيبي ومن هاشم قرما كريما ومصعبا وكان لدى الهيجاء غير هيوبي غدا تدع العاص عليا فراعه بضربة عضب بله بخضيبي. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Il est en train de décrire la situation et il dit: donc, j'aurais pas eu besoin de Ibn Sha'oub, mon cheval m'aurait suffi. Et ensuite, il décrit ce qu'il a fait et il dit combien de gens des Bani Najjar j'ai tués. Les Bani Najjar, c'est la tribu de Médine qui a accueilli le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est dans ce quartier-là que va vivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est dans cette tribu-là que va être construite le Masjid al-Nabawi, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc lui, c'est important de dire, j'ai tué plein de gens à Uhud, et en particulier ceux qui ont le plus aidé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les Bani Najjar. Qataltu min al-Najjar kull najibi. Et j'ai tué des Bani Najjar, tous les notables, toutes les personnes importantes, respectées. Toutes les personnes fortes. C'est moi qui les ai tués, Abu Sufyan. Et là, il est dans la poésie, donc il va loin. Radiyallahu anhu. Et là, on parle du moment où il n'est pas encore musulman. Mais après, il deviendra musulman. Donc tout ça, l'islam, il va l'effacer. Et qu'est-ce qu'il va? Il va loin. Après, il dit carrément « وَمِنْ هَاشِمٍ قَرْمًا كَرِيمًا وَمُصْحَبًا وَكَانَ لَدَ الْهَيْجَاءِ غَيْرَ هَيُوبِ » Et il dit « وَمِنْ هَاشِمٍ » Et des Bani Hashim, donc la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, « قَرْمًا كَرِيمًا وَمُصْحَبًا » Un étalon. J'ai aussi tué un étalon. Un étalon, normalement, c'est pour le cheval, mais les Arabes, ils utilisaient le terme étalon pour les meilleurs de chevaux. Et quand ils l'utilisaient pour un homme, c'était pour dire, ah, mashallah, c'est quelqu'un. Il a plein de qualités. Il est fort physiquement, dans le comportement, etc., dans l'intelligence, dans la culture. Aïwa. Donc lui, il parle de qui, en fait, ici? Il parle de Hamza. Pourtant, Hamza, ce n'est pas Abu Sufyan qui va le tuer. C'est qui? C'est Wahsh, comme on va le voir. Mais lui, il laisse entendre dans le poème que c'est comme s'il avait participé. Entre guillemets, c'est lui le chef de l'armée, donc tout ce qui se passe dans l'armée, c'est comme s'il l'avait fait lui. Naam. Mais il ne le dit pas. Il ne dit pas, c'est pas moi, c'est un tel. Il s'attribue à lui, pendant la Jahiliya, quand il n'est pas encore musulman, il s'attribue à lui le fait d'avoir tué Hamza. Et donc il dit, « وَمِنْ هَاشِمِينَ » Et des Bani Hashim, j'ai aussi tué Qarman, quelqu'un, un notable, quelqu'un d'important. « Kariman », généreux. Wa Mus'aba, et difficile d'accès. Personne n'aurait réussi à le tuer. Personne n'a réussi à le tuer jusqu'alors. وَقَدْ كَانَ لَدَ الْهَيْجَاءِ غَيْرَ هَيُوبِ. Et il était pendant la guerre quelqu'un qui n'était pas lâche. Et moi, je l'ai tué. Et il termine par dire, il y a d'autres rimes, mais je termine juste par celle-là. غَدَاتَ دَعَ الْعَاصُ عَلِيًا فَرَاعَهُ بِدَرْبَةِ عَضْبٍ بَلَّهُ بِخَضِيبِ. La journée, en parlant de Uhud, la journée où, en parlant de Naam, de Uhud, la journée où l'As a appelé Ali en duel, Afwan, j'ai mélangé, ça c'est une rime du compagnon Hassan ibn Thabit, radiallahu anhu, justement qui répond à Abu Sufyan. Cette dernière rime que je viens de traduire, que je viens de donner, c'est pas Abu Sufyan. C'est Hassan ibn Thabit radiyallahu anhu qui va lui répondre. Hassan ibn Thabit, c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est un poète du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hassan ibn Thabit, il va lui dire pour lui répondre après Uhud. Ata'jabu an dhakarta Hamzata minhum najiban wa qad sammaytahu bi najibi. ولست لزور قلته بمصيبي. Il dit même ذكرت القروم الصيد من آل هاشم ولست لزور قلته بمصيبي. Tu as parlé, donc il dit dans son poème, et il répond, si vous entendez bien, avec le même type de rime que Abu Sufyan a fait. Dans la réfutation des poèmes, quand on réfute un poème par un poème, on prend le même wazn, les mêmes vagues syllabes qu'il a utilisées, les mêmes rimes. Donc c'est encore moins facile pour celui qui doit réfuter. Il a moins de liberté dans son poème. Et donc il le fait, Hassan ibn Thabit, radiallahu anhu, il lui dit « ذكرت القروم الصيد من آل هاشم ولست لزور قلته بمصيبي. » Tu as mentionné « القروم » le pluriel de « قرم ». « قرم », j'ai dit tout à l'heure, c'est un étalon. « القروم » c'est les étalons. Tu as parlé des étalons de la famille de « آل هاشم » de la tribu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. وَلَسْتَ لِزُورٍ قُلْتَهُ بِمُصِيبِ. Et tu ne dis pas la vérité parce que tu as menti. C'est où qu'il a menti? En disant que c'est lui qui les a tués. Tu n'as pas dit vrai parce que tu as menti. Naam. Et ensuite il lui dit أَتَعْجَبُ أَنْ ذَكَرْتَ حَمْزَةَ مِنْهُمُ. Est-ce que tu n'es pas étonné? Je lui pose la question. N'es-tu pas étonné que toi-même, tu as choisi de mentionner Hamza parmi les Bani Hashim? Et qu'est-ce que tu as dit à propos de Hamza? Najiban. Il est Najib, il est un notable, il est quelqu'un d'important, de vénérer, d'admirer. وَقَدْ سَمَّيْتَهُ بِنَجِبِ. Et tu l'as appelé, tu l'as décrit comme étant un Najib, quelqu'un d'admiré, quelqu'un de respecté. Yani il lui dit, tu t'es trahi toi-même. Parce qu'à un moment dans ces rimes de tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit? Il a dit, قَتَلْتُ مِنَ النَّجَّارِ كُلَّ نَجِبِ. J'ai tué des Bani Najjar, tous les Najib, tous les gens respectés. Et ensuite il dit, et aussi chez les Bani Hashim, quelqu'un de respecté en parlant de Hamza. Donc il lui dit, toi-même, tu t'es trahi et tu as dit qu'il est respecté, qu'il y a quelqu'un d'admiré, de respecté. Il faut le faire. Hein. Quand on connaît les règles de la poésie et qu'en même temps on arrive à faire passer ce sens à travers la poésie, vraiment, il faut le faire. Naam. Sans aucun doute, Hassan ibn Thabit, radiallahu anhu, était un des plus grands poètes parmi les compagnons du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. À tel point que quelquefois, le prophète sallallahu l'appelait dans certaines situations, il disait, allez, vas-y, dis ce qu'il y a à dire ici pour cette situation. Il avait le verbe, il avait l'éloquence. Naam. Et ensuite, il lui fait rappeler à Abu Sufyan, il lui rappelle à Abu Sufyan, d'accord, vous avez gagné Uhud, mais ça vaut quoi Uhud par rapport à ce qu'on vous a fait à Badr? ألم يقتلوا عمرا وشيبة وابنه وعتبة والحجاج وابن حبيبي. N'ont-ils pas tué ceux que tu prétends avoir tués à Uhud? N'ont-ils pas eux d'abord tué vraiment les plus respectés? Utba, al-Hajjaj, Ibn Habib, leurs enfants, etc. Ghadata da'a al-'Asr. Aliyan fara'ahu. La journée où l'As, qui l'As? C'est un idolâtre. L'As ibn Sa'id ibn l'As. Il avait appelé en duel Ali ibn Abi Talib en plein la bataille. Fara'ahu. Et Ali, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a ébranlé. Bidarbati adbin ballahu bi khadibi. Avec un coup de lame, ballahu bi khadibi. Yassali salam avec le sang, le khadib. Normalement, en arabe, c'est le produit pour teindre les cheveux ou les tissus, les vêtements. Mais il est aussi utilisé de manière métaphorique et poétique pour parler du sang, quand il vient tacher quelque chose. Donc, salam, il l'a taché. Il lui a suffi de mettre un coup à l'as, et c'était bon. Et à cause de ça, il a quand même taché salam. Il est pour dire, c'est rien du tout ce qu'il a fait. C'était trop facile, Yann. Non. Ça, c'était Hassan ibn Thabit, radiallahu anhu, qui a répondu à Abu Sufyan. Non. Et donc, ça nous fait revenir à Hamza, radiallahu anhu, mais je vois que j'ai ouvert beaucoup de parenthèses et j'ai pris beaucoup de temps. Et donc, on en arrive à Hamza, radiallahu anhu. Hamza, radiallahu anhu, va, pendant la bataille de Uhud, mener un combat féroce. Il va être à la hauteur, comme l'attendent avec inquiétude les idolâtres. Les idolâtres, ils ont peur surtout d'une personne dans la bataille, c'est qui ? C'est Hamza ibn Abdul Muttalib. Quand ils entendent son nom, les idolâtres, ils tremblent. C'est limite quand les mères, elles veulent faire peur aux enfants, elles ne parlent pas du loup, du méchant loup, elles parlent de Hamza, chez les idolâtres, évidemment. Mais c'était vraiment à ce point-là. Hamza ibn Abdul Muttalib était certes respecté, mais il terrifiait les idolâtres. Et c'est pour cela aussi que on a payé un homme pour qu'il ne s'occupe de rien d'autre que de Hamza. Tout le monde s'occupe de l'armée de Hamza, mais il y a un homme, sa mission pendant cette bataille, Wahshi, c'est de s'occuper de Hamza. Des compagnons, comme Hamza ibn Abdul Muttalib, radiallahu anhu, il n'y en a pas beaucoup. Non. Et donc, on va voir les combats que Hamza va mener au début de cette bataille et comment, malheureusement, Wahshi, radiallahu anhu, parce que lui aussi va finir par se convertir à l'islam, va réussir à l'assassiner. Et ça, Inch'Allah, c'est ce que nous verrons la fois prochaine. Bismillah, tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum pour votre attention. Subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.